Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc l'émission s'appelle Regarde ailleurs. L'idée, c'est vraiment d'élargir sa vision grâce aux rencontres que je peux faire lors de différents voyages. Regarde ailleurs, c'est aussi mettre l'accent sur différents pays, différentes cultures, différentes destinations. Là, je me retrouve dans un pays d'Afrique de l'Ouest, le Bénin. Le Bénin enclavé entre le Togo à l'ouest et à l'est le Nigeria. Un pays qui s'étend sur sa longueur, donc le sud aux côtés de l'océan, et je crois que t'as plusieurs milliers de kilomètres, 2 ou 3 000 kilomètres pour monter jusqu'au nord, qui est à la frontière avec le Burkina. Avec moi, Messi, donc on va prendre le temps dans cette émission de te rencontrer, de savoir un peu qui tu es. Donc je crois savoir que tu es guide touristique, mais pas que. Donc on va revenir un peu à Messi, enfant. Qui es-tu enfant et à quel moment tu as su que tu avais envie de travailler avec le tourisme?
Alors, je suis effectivement Messi, guide du tourisme basé à Porto-Novo et ville capitale du Bénin. Alors, Messi enfant, il faut dire que je suis fils d'instituteur et donc j'ai cette opportunité de pouvoir me déplacer de ville en ville, de campagne en campagne avec mon papa, puisque lorsqu'on est fonctionnaire de l'État à l'époque, on dit qu'il faut aller partout où besoin sera. Donc mon père a été affecté un peu partout dans le Bénin et ça m'a permis de rencontrer plusieurs personnes, plusieurs cultures et donc j'ai appris beaucoup déjà dès mon enfance. Et une fois devenu adulte, je vais dire que j'ai fait mon cours primaire dans des villages du Bénin, mon cours secondaire et je l'ai achevé ici à Porto-Novo au lycée Béanzin de Porto-Novo. Est l'un des tout premiers lycées du Bénin. Et donc, et c'est à l'issue de l'obtention de mon baccalauréat que je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et tout de suite, au fait, lorsqu'on est issu d'une famille, de famille modeste, il faut se chercher. Il faut se trouver des occasions pour gagner de l'argent. Et donc, souvent, pendant les vacances scolaires, on a des opportunités où on vend des cahiers, des livres. Et moi, mes amis avaient eu cette opportunité. Mais je me suis dit, est-ce que c'est ça qu'il me faut? Et moi, j'avais trouvé un job dans un musée. Et comme quoi, tenir la boutique du musée ethnographique, la boutique souvenir. Et j'ai commencé, j'ai fait 3 mois. Après, la conservatrice qui m'avait recruté à l'époque m'avait proposé un contrat à durée indéterminée. C'est comme ça que mon aventure avait commencé dans le patrimoine, dans la culture. Et elle m'a formé à l'animation de visites et des expositions. Et donc j'ai animé notamment une exposition permanente intitulée « Naître, vivre et mourir en République du Bénin ». Cette exposition est restée sur place jusqu'à nos jours où actuellement le musée ethnographique a fermé ses portes pour connaître des travaux.
Naître, vivre et mourir au Bénin. Qu'est-ce que c'est que naître au Bénin pour toi?
Naître au Bénin, déjà, c'est avoir cette opportunité d'avoir un nom qui vous identifie et qui vous permet de savoir déjà votre histoire. Parce que la dation de nom, qui est une action qui consiste à attribuer un nom au nouveau-né, fait l'objet d'une grande cérémonie ici. Et c'est souvent les tantes, les oncles qui ont le privilège d'attribuer le nom au nouveau-né. Et donc, en fonction de la circonstance ou des circonstances de naissance de l'enfant, on donne un nom à l'enfant. Et donc, moi, on m'a donné comme nom Tounde. Tounde, puisque j'étais né un peu après le décès de mon grand-père. Et donc, l'enfant né après le décès de son grand-père, on lui attribue le nom Tounde en milieu Yoruba. Voilà, donc, on m'avait attribué ce nom. Et j'ai grandi dans cet environnement culturel et donc c'est une bonne opportunité pour tout Béninois, né au Bénin, et également de porter l'histoire du pays, la culture du pays, la culture vaudou. Et donc c'est un honneur que d'être Béninois et donc d'être issu du pays vaudou. Voilà.
On va parler dans cette interview du vaudou, forcément c'est quelque chose qui interpelle et qui fascine. Je reviens à cette notion de prénom qu'on te donne à la naissance. Donc aujourd'hui, quand je rencontre des Béninois dans la rue, il y a des Charles, des François, des Jean-Marie, donc j'imagine que c'est des noms qui sont venus après. Donc parce que le nom est choisi par ta famille, il représente un petit peu le contexte ou a une symbolique très forte par rapport à ton moment de naissance.
Absolument, c'est ça. Mais quand au fait, il y a des noms de calendrier qu'on peut identifier, et donc Charles, et Jean-Baptiste et autres, c'est des noms de calendrier, mais et donc qui a trait au jour de naissance de l'enfant. Donc en suivant le jour de naissance, on regarde le calendrier, on lui donne le nom du saint correspondant. Cependant, le nom indigène, bon, on le dit ainsi, le nom indigène, c'est en fonction des circonstances de naissance, voilà.
Mais sur ta carte d'identité, alors, quel est le nom qui figure ?
Oui, sur la carte d'identité, à la fois, par exemple, moi j'ai un nom de calendrier, donc je suis Messi et Tourné. Donc le nom de famille Boko, donc tout figure sur la carte d'identité.
Alors j'ai souvenir, il y a quelques années, d'avoir rencontré un Togolais, donc un pays juste à côté du Bénin, où la culture est très similaire, hein, parce que l'ethnie, les fonds sont les mêmes au Togo et au Bénin, où il y avait ce garçon que j'avais croisé sur un marché, qui me disait qu'il s'appelait Agosu, et qu'Agosu, c'était ceux qui étaient nés par les pieds.
Tout à fait. Agosu, c'est le nom donné à un enfant né par position podalique. Podalique, donc, au lieu de sortir avec la tête, il sort avec les deux pieds d'abord. Donc, c'est ça. Pas le siège, au fait. Oui, effectivement. Donc, Agosu, c'est le nom donné à un tel enfant. Oui.
Et donc après, on attribue aussi des pouvoirs ou des caractéristiques particuliers en fonction de la manière dont les gens naissent. Je crois me souvenir que Agosu n'avait pas le droit de rire ou de sourire.
Oui, et au fait, c'est des enfants qui sont porteurs d'une certaine divinité, il y a des caractéristiques divines qu'on leur attribue. Et moi, je suis père d'une fille, elle s'appelle Agosi. Agosi, c'est le sexe opposé à Agosu, au fait. Agosu, c'est pour le garçon, donc Agosi, la fille. Alors, donc, ma fille, pour moi, elle est une divinité, au fait. Donc, lorsque je suis en difficulté et que je vais consulter l'oracle, parfois, me dit de pouvoir prier l'esprit de cet enfant. Voilà, simplement.
Et qu'est-ce qu'on lui attribue comme pouvoir à cette divinité, donc à ta fille qui s'appelle Agosi ?
Agosi, dans notre culture ici, c'est comme si c'est l'aîné ou l'entité un peu plus forte que l'entité des jumeaux. Et donc, on dit que c'est la grande sœur des jumeaux. Et donc, c'est ça ce qu'on lui attribue. Or, les jumeaux, c'est des divinités qui sont importantes ici, qui règlent beaucoup de problèmes et qui également permettent la prospérité aux familles, tout ça.
Les jumeaux, donc c'est pareil, quand on accouche de jumeaux, on a aussi des noms spécifiques.
Absolument, donc quand on accouche des jumeaux également, on a des noms spécifiques comme Zinsou, Zinhui, Tété, et en milieu yoruba, on parle de Tétédé, Kéndé, voilà, donc les jumeaux, c'est ça, et donc ils ont leur nom, et quand on les désigne, tout de suite, les gens se rendent compte qu'il s'agit de jumeaux.
Et qu'est-ce qu'il en est des albinos ?
Oui, les albinos ici, il faut dire, contrairement à d'autres pays de l'Afrique où les albinos font l'objet de persécutions, hein, de dénigrement, d'isolement, et où parfois ils sont utilisés, on dit qu'on les utilise, moi je ne sais pas, qu'on les utilise dans des cérémonies et tout ça. Non, ici au Bénin, au fait, c'est des enfants choyés, c'est des enfants que nous aimons, qu'on respecte bien. Et d'ailleurs, il y a une divinité qui les incarne. Et donc, quand les albinos naissent dans une famille, c'est le signe que il y a quelque chose de bon, que la nature réserve à cette famille. Voilà, la providence réserve à cette famille.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Tu disais, je reviens sur le naître, vivre et mourir au Bénin. Donc naître au Bénin, on arrive déjà dans un contexte culturel où on va avoir un nom qui est donné par, tu disais, les ancêtres, les grands-parents, notamment en fonction de l'actualité, en tout cas de ce qui se passe dans la vie de la famille. Donc le moment de naissance, c'est un moment assez fort, si je comprends bien, qui peut déterminer beaucoup de choses dans la suite de son existence. Donc naître, vivre, c'est quoi vivre au Bénin ?
Alors, donc déjà, lorsque vous... Et on est au Bénin et lorsque on a le nom et au fait on a un programme de vie. Donc à partir du nom qu'on attribue à l'individu, on lui donne un programme de vie. Et suite à ça, il fait sa socialisation. Et donc au cours de la socialisation, l'enfant accède aux connaissances de son milieu de vie. Et donc pour accéder aux connaissances du milieu de vie, il faut être initié. Donc on fait l'initiation, donc il y a des sociétés qui s'occupent de l'initiation, donc des couvents qui s'occupent de l'initiation. Lorsque on est en milieu Yoruba, il y a le Gelede qui est la société qui initie. Lorsque on est en milieu Fon ou Gun, on a le Zangbeto, on a le... Oui, et... donc en dehors du Zangwito, nous avons Gunuko par exemple. Donc donc le jeune fait l'initiation et donc il doit maintenant faire ce qu'on appelle le rite de passage. Et donc au cours du rite de passage, c'est un examen au fait qu'on passe. Et donc lorsqu'on fait cet examen et qu'on réussit, on évolue. Au nord du Bénin, un rite de passage que je peux citer, c'est la flagellation. Donc la flagellation chez le Bétamaribé. On identifie des jeunes qui ont entre 18 et 20 ans et on les initie dans une forêt et après l'initiation on les présente au public. Au moment de la présentation au public, et ces jeunes se flagellent l'un l'autre. Et quand aucun d'eux ne coule de larmes, c'est dire qu'ils sont courageux. Donc on jauge en eux leur capacité de courage. Donc c'est ça, donc le rite de passage qu'on observe au nord du Bénin chez les Bétamaribé. Donc au sud, lorsque vous faites l'initiation aux Zangbeto, il y a également cette étape où on vous flagelle, on vous frappe. Et dans le couvent, et ceci pour pouvoir vous dire que le secret auquel vous accédez, vous ne devez pas le livrer à un profane. Et donc, c'est pareil également en milieu Yoruba où le Egungun fait votre initiation, donc il y a toujours la flagellation. Même dans le Oro, il y a également la flagellation. Donc, l'être humain, pendant... Et sa vie d'adolescence doit pouvoir vivre des moments difficiles, des périodes où il va pouvoir se donner des défis. Voilà, donc c'est ça un peu. Donc la vie de l'être humain, la vie de l'individu. Et maintenant l'individu étant devenu adulte désormais du point de vue de la population, du point de vue de la communauté. Et donc il a l'opportunité, le quitus, de pouvoir se marier. Et donc on se marie, et là également, c'est qu'il faut forcément faire le mariage traditionnel parce que le mariage traditionnel consolide les liens familiaux et c'est la famille qui doit pouvoir donner son mot d'ordre avant que les deux ne se mettent ensemble. Si c'est faire ainsi, alors on peut passer tranquillement sa vie d'adulte, et voilà.
Donc c'est les parents qui choisissent la femme ou le mari ?
Au départ, c'était ça. Au départ, c'était que le père ou la mère, donc l'un d'entre eux va identifier la fille qui les plaît et donc qui pourra être l'épouse de leur garçon. Donc c'était ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe ? C'est qu'on laisse la possibilité aux concernés de faire leur choix. Donc, il y a la liberté de choix aujourd'hui.
Avec un système de dot ?
Avec un système de dot, absolument. Donc le mariage est basé, le mariage traditionnel est basé sur la dot, donc c'est ça. Donc il faut donner un cadeau à sa belle famille, et donc ça peut être, la dot peut être, peut être composée donc de pagne, de tissu ouase qu'on donne, et de boisson, quoi d'autre ? Donc de l'argent, donc une enveloppe, voilà, donc tout ça.
Du bétail aussi ?
Du bétail, c'est possible, oui, ça se fait, surtout au nord, oui, au nord du Bénin, où on retrouve des peuples éleveurs, et donc du bétail, les gens donnent, oui, aussi.
Donc il y a des rituels de passage, tu parlais de la flagellation, donc ça c'est quelque chose qui est pour les hommes et pour les femmes, ou simplement pour les hommes ? Ou quel est le rituel pour les femmes ?
Donc la flagellation, c'est uniquement pour les hommes. Et les femmes, et souvent, au fait, au nord du Bénin, chez les Bétamaribé, j'ai parlé de l'initiation pour chez l'homme. Mais chez la fille, c'est qu'elle doit démontrer ses capacités de danse. Est-ce qu'elle sait bien danser ? C'est bien. Voilà, donc elle fait une cérémonie au cours de laquelle elle va danser publiquement. Et, et en ce moment, elle va porter un chapeau qui est orné de cornes et de cornes et de kori. Donc les cornes, au fait, les ingrédients, les cornes et les coris.
Donc les coris, c'est des coquillages. Hein?
Oui, c'est des coquillages, au fait. Donc c'est le futur mari qui a envoyé tout ça pour pouvoir fabriquer le chapeau. Et donc les coris démontrent la richesse, témoignent de la richesse du futur mari. Et parce que c'était la monnaie d'échange, les coquillages ici, c'était l'argent. Et les cornes témoignent de la bravoure du futur mari. Puisque, au fait, c'est des cornes souvent d'antilope, donc c'est-à-dire que le futur mari, c'est un chasseur. Voilà, donc l'activité principale qui est menée au nord du Bénin, l'activité traditionnelle principale menée au nord du Bénin, c'est la chasse. Donc le futur mari doit pouvoir aller à la chasse, tuer un animal, apporter les preuves. Et donc cet animal est de préférence l'antilope. Et donc l'épouse, elle va danser publiquement et démontrer que son mari est courageux. Il a été à la chasse une fois, il a tué l'antilope, il a apporté les preuves, il est riche, il a les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Voilà.
Donc pour revenir sur les moments forts de la vie d'un Béninois ou d'une Béninoise, donc à cette notion de naissance qui va déterminer déjà ton chemin de vie, ton parcours en fonction du prénom que tu vas avoir, il y a le rite de passage, il y a le mariage aussi qui est très important ici. Qu'est-ce qu'on peut encore citer dans la vie d'un Béninois comme moment essentiel ou très important ?
Oui, ce qu'on peut citer dans la vie d'un Béninois comme un moment est très important, c'est la dernière étape, la mort. La mort ici n'est pas vécue forcément comme un moment triste, c'est également un moment heureux. Porto Novo s'illustre sur ces terrains notamment, où vous venez les week-ends, il y a ce qu'on appelle Agor partout. Agor, c'est-à-dire que c'est une fête qui intervient à l'issue d'un moment de joie, d'un événement de joie ou d'un événement de malheur. Donc, et l'événement de joie peut être un mariage, un anniversaire, et un baptême. Mais l'événement de malheur peut être la mort. Et donc, autour de la mort notamment, à partir déjà du vendredi soir, vous assistez à ce qu'on appelle... vous avez un programme, tout un programme étalé sur le week-end où les gens vont faire le retrait du corps. Et après le retrait du corps, il y a l'enterrement qui intervient le samedi. Et donc le dimanche maintenant, c'est la fête. Les parents qui se sont déplacés, qui sont venus du Nigeria, qui sont venus de l'intérieur du Bénin. Et donc eux tous, il faut leur donner à manger, il faut leur donner à boire, il faut danser. Et donc voilà, donc on fait venir maintenant un Aziza. Au fait, Aziza ici, c'est un artiste qui chante en langue nationale, comme le Fongwe, le Gongwe, et donc qui égaye le public, qui anime correctement. Et voilà, donc les gens dansent, voilà. Donc c'est ça, au fait, la dernière étape de la vie de l'être humain, c'est un moment important aussi. Et tout être humain, déjà de son vivant, souhaite que ce moment soit bien célébré pour lui ici. Et c'est en cela que les gens veulent savoir, ils veulent se rassurer que les enfants sont capables de le faire. Et donc il faut assurer correctement la formation de ses progénitures et les positionner dans le système financier du pays. Si c'est que on veut que ces enfants soient des fonctionnaires de l'État, donc il faut les aider à ce qu'ils passent le concours pour être agents de l'État. Et s'il faut qu'ils soient dans le privé, il faut leur trouver le capital pour qu'ils commencent leur activité. Et donc, au soir de sa vie, on peut bien vivre et savoir que les enfants vont assurer correctement et dès que ce sera le moment de les enterrer. C'est ça.
Est-ce qu'on revient après la mort? Est-ce qu'il y a ce système d'âme qui revient sur Terre ou comment ça se passe une fois qu'on est mort?
Il y a Akindele Agassi qui estime, ces deux anthropologues béninois, ils estiment que les morts ne sont pas morts. Ils sont toujours avec nous. Ils nous inspirent. Ils nous vengent. Ils peuvent nous rappeler à eux lorsqu'ils jugent excessives nos souffrances sur la terre. Il y a Birago Diop, lui, qui dit que les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau qui coule, dans le vent qui souffle. Voilà, donc, pour vous dire que nous croyons fortement en la réincarnation. Et donc, moi, je suis, réincarné. Donc, au fait, mon grand-père, il est décédé. Il avait un programme de vie qu'il n'a pas fini d'assurer. Il était instituteur et donc engagé un peu dans la politique. Et il a connu une mort subite. Et moi, je prends la relève après. Donc, c'est ça. Donc, c'est le grand-père réincarné qui est aujourd'hui Messi qui vous parle actuellement.
D'où ton nom que tu as eu à la naissance aussi, qui alors, était le nom donné par...
Alors donc, d'où mon nom et Messi et Tunde, mon nom donné par et ma tante. Oui.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
On va terminer cette émission Regarde ailleurs par quelque chose de grand ou de très présent ici, la culture vaudou. D'ailleurs là, on est début janvier. Le 10 janvier, il y a une grande fête vaudou qui est célébrée dans tout le pays. Et je crois que ça a déjà commencé un peu partout dans différentes places. J'aimerais, avant que tu me parles du vaudou, que tu reviennes peut-être sur une expérience que tu as vécue quand tu étais jeune, adolescent ou jeune adulte. Quelque chose d'assez fascinant, d'incroyable, que tu as pu voir, qui est quelque chose d'extraordinaire aux yeux de ceux qui ne sont pas habitués au vaudou, à la culture vaudou.
Oui, déjà avant de pouvoir évoquer ce que j'ai pu voir d'incroyable, tout ça, je vais quand même dire un peu comment est-ce que j'ai eu le courage après de pouvoir pratiquer et fréquenter les couvents vaudons, les praticiens vaudons. Alors, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Et je vous l'ai dit tantôt, au fait, au Bénin, on est à la fois chrétien et vaudouisant. Maintenant, si on est chrétien, au fait, c'est que la famille accentue beaucoup plus sur le côté christianiste. Donc, il faut aller à l'église. Et voilà. Donc, moi, je suis né dans une famille chrétienne et j'allais souvent à l'église. J'ai été aspirant. Donc, peu s'en fallait, j'allais déjà me rendre au séminaire. Et voilà. Et puis, on nous a dit à l'église qu'il ne faut pas aller voir les spectacles, les gongons, les spectacles, les angbétos et les cérémonies vaudou, il ne faut pas aller là-bas. Et il faut, lorsque nous voyons passer une caravane vaudou, donc il faut faire le signe de la croix, tout. Alors, donc moi, j'avais souvent peur de ça depuis mon enfance. Et j'ai suivi des films hollywoodiens donc, et sur le vaudou, qui blâment le vaudou, qui présentent négativement le vaudou. Et il y a un film qu'on appelle Chakala et que j'ai suivi plusieurs fois quand j'étais enfant. Donc, et tout ça, ça m'a donné une image négative du vaudou. Et il a fallu que je me retrouve au musée ethnographique et qu'on me donne cette opportunité de continuer mes études. Donc j'ai fait 2 années de socio-anthropologie avant de pouvoir me retrouver finalement à l'école du patrimoine africain. Donc c'est une fois là-bas qu'on m'a défini ce que c'est que le vaudou. Et pour moi, donc, le vaudou, c'est au fait pour les occidentaux, vous m'excusez, pour plusieurs personnes, le vaudou c'est une poupée dans laquelle on fait des aigus. Or, c'est faux. Au fait, il y a que Haïti a été le premier peuple africain qui a repoussé l'armée coloniale en 1803 et qui en 1804 avait eu son indépendance. Et donc cet échec de l'armée de Napoléon face à l'armée de Toussaint Louverture et de Jean-Jacques Dessalines avait étonné tout le monde entier. Donc les intellectuels de l'époque se sont intéressés à ce pays et se sont rendus compte que la source de l'énergie de ce peuple se retrouvait dans sa religion qu'est le vaudou. Et donc il y avait un intellectuel anglais du nom de Spencer qui avait présenté le vaudou haïtien comme étant une poupée dans laquelle enfonce des aigus. Et ça a été repris par des films hollywoodiens. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de pouvoir accéder à la vraie définition donc, à l'université où on me présente le vaudou comme étant une religion comme les autres religions du monde. Et on distingue 2 types de religions dans le monde. Il y a des religions du livre, et comme le judaïsme, le christianisme, l'islam. Et à l'opposé, nous avons les religions de la société, donc, parmi lesquelles nous avons le vaudou. Et il y a un sociologue français du nom de Émile Durkheim qui estime que les faits religieux sont appréhendés, on peut mieux appréhender les faits religieux en étudiant les religions de la société. Et il dit que les religions sont amènent l'individu à adorer son milieu de vie. Donc c'est ça, lui, sa définition de la religion. Donc, c'est l'adoration du milieu de vie. Alors, donc, ça rejoint un peu ce que nos ancêtres et les garants de la tradition disent ici du vaudou, où on dit que le vaudou, c'est qu'on adore les éléments de la nature. On adore l'air, l'eau, le feu, la terre. Et donc, nos ancêtres estiment que Dieu, il est très fort, qu'il a reparti sa puissance au sein de ces éléments de la nature. Et donc, pour prier Dieu grandir, on transite par ces éléments de la nature. Et je vous le dis, au fait, les prêtres de la Société des Missions Africaines, lorsqu'ils étaient venus pour évangéliser ici, ils se sont posé une première question. Est-ce que l'indigène connaît Dieu? Dieu grandit. Et donc, après étude, tout ça, ils se sont rendus compte que oui, l'indigène connaît Dieu et le désigne par Mao. Alors donc, le vaudou, c'est que on prie le Dieu unique, mais en transitant par les éléments de la nature. Donc c'est ça un peu le vaudou. Donc le vaudou n'est pas de la négativité. Le vaudou, c'est vraiment une religion positive. Et donc le prêtre vaudou siège pour contribuer au développement de sa localité, de sa communauté. On peut observer aujourd'hui et des déviances. les déviances ne sont pas donc il ne faut pas prendre ce cas et ces cas de déviance pour pouvoir estimer que c'est les prêtres vaudous qui agissent mal, qui font certains rituels qu'il ne faut pas faire, non. Donc et c'est ça un peu. Alors donc moi j'ai assisté à plusieurs événements vaudous, notamment la danse Egungun et là ce que j'ai vu qui m'a beaucoup fasciné, c'était quand j'assistais et quand j'ai vu prestidigitation faite par la société Zangwito. Donc Zangwito, au fait, c'est le gardien de la nuit ici et qui a été créé par le fondateur du royaume de Porto Novo. Mais suite à une difficulté. Au fait, lui, il était prince du royaume d'Alada. Et Alada, c'est un foyer de dispersion qui a connu son apogée au XVIIe siècle, au fait. Donc, en 1688, il y avait eu un conflit de succession au trône. Trois frères qui se sont disputés le trône. Et deux avaient pris la décision à l'époque d'aller découvrir un nouveau territoire et fonder leur propre royaume. Et l'un est allé fonder le royaume d'Abomé et l'autre Porto Novo. Et Théagbanlin, qui avait pris la direction de Porto Novo, devrait partir d'Alada avec ses amis, ses parents, beaucoup de personnes. Il devrait traverser une vaste forêt remplie d'animaux sauvages. Comment pouvait-il traverser cette forêt sain et sauf? C'est de là qu'il a eu l'idée, une idée émise par l'un de ses frères du terrain qu'on appelle Djegbe. Et donc, ils ont cherché des feuilles de bananier et avec lesquelles ils ont réalisé une robe qui tourbillonnait, qui dansait, qui allait dans tous les sens. Et accompagné de ça, ils ont cherché une corne d'antilope dans laquelle ils ont soufflé et ça a produit un bruit assourdissant, effrayant. Ceci leur a permis de loin de leur passage tous les animaux sauvages. Et c'est ainsi qu'ils avaient pu repérer la traversée. Ils étaient arrivés ici et le fondateur du royaume, Théagbanlin, a pu fonder son royaume et maintenant a pensé à sa sécurité et à celle des personnes qui sont autour de lui. Et c'est de là qu'il s'est fait l'idée que l'effet qu'avait réalisé cette rue sur les animaux sauvages, ça pouvait réaliser le même effet sur l'homme qui ne connaissait pas le mécanisme. Alors il en a fait une société hermétique, secrète, et donc seuls les initiés ont accès. Et la nuit, ça sort pour produire ce bruit assourdissant, effrayant et dissuader les indélicats individus. Par contre, le jour, ça sort pour répondre aux défis des profanes. Parce que les profanes estiment que c'est un homme qui se casse sous la robe pour la faire tourbillonner. Les initiés soutiennent que c'est un esprit. Donc on assiste souvent à la démonstration, on renverse la robe, parfois on ne retrouve rien, parfois on peut retrouver un animal. Et donc, le mystère continue jusqu'à nos jours. Alors donc, j'ai assisté à ça plusieurs fois déjà. Mais pour la première fois, vraiment, ça m'avait fasciné. Et je me suis dit, mais il doit avoir quelque chose. Mais après, j'ai fait mon initiation, j'ai mieux compris. Et donc, si quelqu'un veut mieux comprendre, il n'a qu'à aller faire son initiation.
Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. L'émission que vous venez d'entendre s'appelle « Regarde ailleurs ». Ce podcast donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde dans le cadre de mon activité de photographe voyageur. Je pars de l'idée qu'une personne, le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime pouvoir récupérer tous ces témoignages souvent très inspirants. Belle journée à tous !